Spinoza, Éthique, livre 2, de la proposition 23 à 41 comprise. Proposition 23. L'âme ne se connaît elle-même qu'en tant qu'elle perçoit les idées des affections du corps. Démonstration. L'idée de l'âme ou sa connaissance suit en Dieu, proposition 20, de la même manière et se rapporte à Dieu de la même manière que l'idée ou connaissance du corps. Puisque maintenant, proposition 19, l'âme humaine ne connaît que le corps humain lui-même, c'est-à-dire, puisque, corollaire de la proposition 11, la connaissance du corps humain ne se rapporte pas à Dieu en tant qu'il constitue la nature de l'âme humaine, la connaissance de l'âme ne se rapporte donc pas à Dieu en tant qu'il constitue l'essence de l'âme humaine. Et ainsi, corollaire de la proposition 11, en ce sens, l'âme humaine ne se connaît pas elle-même. En outre, les idées des affections dont le corps est affecté enveloppe la nature du corps humain lui-même, proposition 16, c'est-à-dire, proposition 13, s'accorde avec la nature de l'âme. Donc, la connaissance de ces idées enveloppera nécessairement la connaissance de l'âme, mais, proposition précédente, la connaissance de ces idées est dans l'âme humaine elle-même. Donc, l'âme humaine dans cette mesure seulement, se connaît elle-même. CQFD. Proposition 24. L'âme humaine n'enveloppe pas la connaissance adéquate des parties composant le corps humain. Démonstration. Les parties composant le corps humain n'appartiennent à l'essence du corps lui-même qu'en tant qu'elles se communiquent leurs mouvements les unes aux autres, suivant un certain rapport, voir la définition qui suit le corollaire du lemme 3, et non en tant qu'on peut les considérer comme des individus en dehors de leur relation au corps humain. Les parties du corps humain sont, en effet, postulat 1, des individus très composés, dont les parties, l'aime 4, peuvent être séparés du corps humain et communiquer leurs mouvements, voire axiome 1 à la suite du lemme 3, à d'autres corps, suivant un autre rapport, bien que le corps conserve entièrement sa nature et sa forme. En conséquence, l'idée ou la connaissance d'une partie quelconque sera en Dieu, proposition 3, et cela, proposition 9, en tant qu'on le considère comme affecté d'une autre idée de chose singulière, laquelle chose singulière est antérieure à la partie elle-même, suivant l'ordre de la nature, proposition 7. On peut en dire tout autant d'une partie quelconque de l'individu même qui entre dans la composition du corps humain. La connaissance d'une partie quelconque entrant dans la composition du corps humain est donc en Dieu en tant qu'il est affecté d'un très grand nombre d'idées de choses et non en tant qu'il a seulement l'idée du corps humain, c'est-à-dire, proposition 13, l'idée qui constitue la nature de l'âme humaine. Et, en conséquence, l'âme humaine, corollaire de la proposition 11, n'enveloppe pas la connaissance adéquate des parties composant le corps humain. CQFD. Proposition 25. L'idée d'une affection quelconque du corps humain n'enveloppe pas la connaissance adéquate du corps extérieur. Démonstration. Nous avons montré que l'idée d'une affection du corps humain enveloppe la nature du corps extérieur, voire proposition 16, en tant que le corps extérieur détermine d'une certaine manière le corps humain lui-même. Mais, en tant que le corps extérieur est un individu qui ne se rapporte pas au corps humain, l'idée ou la connaissance en est en Dieu. Proposition 9. En tant qu'on considère Dieu comme affecté de l'idée d'une autre chose, laquelle, proposition 7, est antérieure par nature au corps extérieur lui-même. La connaissance adéquate du corps extérieur n'est donc pas en Dieu en tant qu'il a l'idée de l'affection du corps humain. Autrement dit, l'idée de l'affection du corps humain n'enveloppe pas la connaissance adéquate du corps extérieur. CQFD. Proposition 26. L'âme ne perçoit aucun corps extérieur comme existant en acte, si ce n'est par les idées des affections de son propre corps. Démonstration. Si le corps humain n'a été affecté en aucune manière par quelque corps extérieur, l'idée non plus du corps humain, proposition 7, c'est-à-dire proposition 13, l'âme humaine non plus, n'a été affectée en aucune manière de l'idée de l'existence de ce corps. En d'autres termes, elle ne perçoit en aucune manière l'existence de ce corps extérieur. Mais, en tant que le corps humain est affecté en quelque manière par quelque corps extérieur, il perçoit en quelque mesure, proposition 16 avec ses corollaires, le corps extérieur. C'est QFD. Corollaire. En tant que l'âme humaine imagine un corps extérieur, elle n'en a pas la connaissance adéquate. Démonstration. Quand l'âme humaine considère des corps extérieurs par les idées des affections de son propre corps, nous disons qu'elle imagine, voir le scoli de la proposition 17. Il n'y a pas d'autre condition dans laquelle l'âme puisse imaginer des corps comme existant en acte, proposition précédente. Par suite, proposition 25, en tant que l'âme imagine des corps extérieurs, elle n'en a pas la connaissance adéquate. C'est QFD. Proposition 27. L'idée d'une affection quelconque du corps humain n'enveloppe pas la connaissance adéquate du corps humain lui-même. Démonstration. Toute idée d'une affection quelconque du corps humain enveloppe la nature du corps humain en tant qu'on considère ce corps humain lui-même comme affecté d'une certaine manière, voir proposition 16. Mais, en tant que le corps humain est un individu qui peut être affecté de beaucoup d'autres manières, son idée, etc., voir démonstration de la proposition 25. Proposition 28. Les idées des affections du corps humain, considérées dans leur rapport avec l'âme humaine seulement, ne sont pas claires et distinctes, mais confuses. Démonstration. Les idées des affections du corps humain enveloppent en effet, proposition 16, la nature tant des corps extérieurs que celle du corps humain lui-même, et doivent envelopper non seulement la nature du corps humain, mais aussi celle de ses parties. Car les affections sont des manières d'être, postulat 3, dont les parties du corps humain et conséquemment le corps en entier sont affectées. Mais, propositions 24 et 25, la connaissance adéquate des corps extérieurs, de même aussi que celle des parties composant le corps humain, est en Dieu en tant qu'on le considère non comme affecté de l'âme humaine, mais comme affecté d'autres idées. Les idées de ces affections, considérées dans leur rapport avec l'âme humaine seule, sont donc, comme des conséquences sans leur prémisse, c'est-à-dire comme il est connu de soi, des idées confuses, CQFD. Scoli. On démontre, de la même façon, que l'idée qui constitue la nature de l'âme humaine n'est pas, considérée en elle seule, claire et distincte. De même que l'idée de l'âme humaine, les idées des idées des affections du corps humain, sont considérées dans leur rapport avec l'âme seule et ne sont pas, non plus, claires et distinctes, ce que chacun peut voir aisément. Proposition 29. L'idée de l'idée d'une affection quelconque du corps humain n'enveloppe pas la connaissance adéquate de l'âme humaine. Démonstration. L'idée d'une affection du corps humain, en effet, proposition 27, n'enveloppe pas la connaissance adéquate du corps lui-même, en d'autres termes, n'en exprime pas adéquatement la nature. C'est-à-dire qu'elle ne s'accorde pas adéquatement avec la nature de l'âme, proposition 13. Par suite, axiome 6, partie 1. L'idée de cette idée n'exprime pas adéquatement la nature de l'âme humaine. Autrement dit, n'en enveloppe pas la connaissance adéquate. C'est QFD. Corollaire. Il suit de là que l'âme humaine, toutes les fois qu'elle perçoit les choses suivant l'ordre commun de la nature, n'a ni d'elle-même, ni de son propre corps, ni des corps extérieurs, une connaissance adéquate, mais seulement une connaissance confuse et mutilée. L'âme, en effet, ne se connaît elle-même qu'en tant qu'elle perçoit les idées des affections du corps. Proposition 23. Elle ne perçoit pas son propre corps, proposition 19, sinon précisément par le moyen des idées des affections du corps. Et c'est aussi par le moyen de ces idées seulement qu'elle perçoit les corps extérieurs, proposition 26. Ainsi, en tant qu'elle a ces idées, elle n'a ni d'elle-même, proposition 29, ni de son propre corps, proposition 27, ni des corps extérieurs, proposition 25, une connaissance adéquate, mais seulement une connaissance mutilée et confuse, proposition 28 avec son scoli, CQFD. Scoli. Je dis expressément que l'âme n'a ni d'elle-même, ni de son propre corps, ni des corps extérieurs, une connaissance adéquate, mais seulement une connaissance confuse et mutilée. Toutes les fois qu'elle perçoit les choses suivant l'ordre commun de la nature, c'est-à-dire toutes les fois qu'elle est déterminée du dehors par la rencontre fortuite des choses à considérer ceci ou cela, et non toutes les fois qu'elle est déterminée du dedans, à savoir parce qu'elle considère à la fois plusieurs choses, à connaître les conformités qui sont entre elles, leurs différences et leurs oppositions. Toutes les fois, en effet, qu'elle est disposée du dedans de telle ou telle manière, alors elle considère les choses clairement et distinctement, comme je le montrerai plus bas. Proposition 30. Nous ne pouvons avoir de la durée de notre propre corps qu'une connaissance extrêmement inadéquate. Démonstration. La durée de notre corps ne dépend pas de son essence, axiome 1. Elle ne dépend pas non plus de la nature de Dieu prise absolument, proposition 21, page 1. Mais, proposition 21, partie 1. Mais, proposition 28, partie 1, il est déterminé à exister et à produire des effets par telle cause, qui elles-mêmes ont été déterminées par d'autres, à exister et à produire des effets dans une condition certaine et déterminée. Ces dernières, à leur tour, l'ont été par d'autres, et ainsi à l'infini. La durée de notre corps, donc, dépend de l'ordre commun de la nature et de la constitution des choses. Quant à la condition suivant laquelle les choses sont constituées, la connaissance adéquate en est en Dieu, en tant qu'il a les idées de toutes choses, et non en tant qu'il a l'idée du corps humain seulement. Corollaire de la proposition 9. La connaissance de la durée de notre corps est donc extrêmement inadéquate en Dieu, en tant qu'on le considère comme constituant la nature de l'âme humaine, c'est-à-dire, corollaire de la proposition 11, que cette connaissance est dans notre âme extrêmement inadéquate. C'est QFD. Proposition 31. Nous ne pouvons avoir de la durée des choses singulières qui sont en dehors de nous qu'une connaissance extrêmement inadéquate. Démonstration. Chaque chose singulière, en effet, de même que le corps humain, doit être déterminée par une autre chose singulière à exister et à produire des effets dans une condition certaine et déterminée. Cette autre, à son tour, l'est par une autre, et ainsi à l'infini. Proposition 28, partie 1. Puis donc que nous avons démontré, dans la proposition précédente, par cette propriété commune des choses singulières, que nous n'avions de la durée de notre propre corps qu'une connaissance extrêmement inadéquate, il faudra, au sujet de la durée des choses singulières, maintenir cette conclusion, à savoir que nous ne pouvons en avoir qu'une connaissance extrêmement inadéquate. C'est QFD. Corollaire. Il suit de là que toutes les choses particulières sont contingentes et corruptibles, car nous ne pouvons avoir, proposition précédente, de leur durée, aucune connaissance adéquate. Et c'est là ce qu'il nous faut entendre par la contingence des choses et la possibilité de leur corruption. Voir Scoli de la proposition 33, partie 1. Car, sauf cela, proposition 29, partie 1, il n'y a rien de contingent. Proposition 32. Toutes les idées considérées dans leur rapport avec Dieu sont vraies. Démonstration. Toutes les idées, en effet, qui sont en Dieu, conviennent entièrement avec leurs objets. Corollaire de la proposition 7. Et par suite, sont vraies. Axiome 6, partie 1. C'est QFD. Proposition 33. Il n'y a dans les idées rien de positif, à cause de quoi elles sont dites fausses. Démonstration. Si on le nie, que l'on conçoive, si on le peut, un mode positif de pensée qui constitue la forme de l'erreur, c'est-à-dire de la fausseté. Ce mode de pensée ne peut être en Dieu, proposition précédente, et hors de Dieu, rien ne peut ni être conçu, proposition 15, partie 1. Il ne peut donc rien y avoir de positif dans les idées à cause de quoi elles sont dites fausses. Proposition 34. Toute idée qui, en nous, est absolue, c'est-à-dire adéquate et parfaite, est vraie. Démonstration. Quand nous disons qu'une idée adéquate et parfaite est donnée en nous, nous ne disons rien d'autre, corollaire de la proposition 11, sinon qu'une idée adéquate et parfaite est donnée en Dieu, en tant qu'il constitue l'essence de notre âme. Et conséquemment, proposition 32, nous ne disons rien d'autre, sinon qu'une telle idée est vraie. CQFD. Proposition 35. La fausseté consiste dans une privation de connaissances qu'enveloppent les idées inadéquates, c'est-à-dire mutilées et confuses. Démonstration. Il n'y a rien dans les idées de positif qui constitue la forme de la fausseté. Proposition 33. Et la fausseté ne peut consister dans une privation absolue de connaissances, car les âmes, non les corps, sont dits errer et se tromper, et pas davantage dans une ignorance absolue, car ignorer et être dans l'erreur sont choses distinctes. Elle consiste donc dans une privation de connaissances qui est enveloppée dans une connaissance inadéquate des choses, c'est-à-dire dans des idées inadéquates et confuses. CQFD. Scoli. J'ai expliqué, dans le scoli de la proposition 17, en quel sens l'erreur consiste dans une privation de connaissances. Mais, pour l'expliquer plus amplement, je donnerai un exemple. Les hommes se trompent en ce qu'ils se croient libres. Et cette opinion consiste en cela seul qu'ils ont conscience de leurs actions et sont ignorants des causes par où ils sont déterminés, ce qui constitue donc leur idée de la liberté, c'est qu'ils ne connaissent aucune cause de leurs actions. Pour ce qu'ils disent en effet, que les actions humaines dépendent de la volonté, ce sont des mots auxquels ne correspond aucune idée, car tous ignorent ce que peut être la volonté et comment elle peut mouvoir le corps. Pour ceux qui ont plus de prétention et forgent un siège ou une demeure de l'âme, ils excitent habituellement le rire ou le dégoût. De même, quand nous regardons le soleil, nous imaginons qu'il est distant de nous d'environ 200 pieds. Et l'erreur ici ne consiste pas dans l'action d'imaginer cela prise en elle-même, mais en ce que, tandis que nous l'imaginons, nous ignorons la vraie distance du soleil et la cause de cette imagination que nous avons. Plus tard, en effet, tout en sachant que le soleil est distant de plus de 600 fois le diamètre terrestre, nous ne laisserons pas néanmoins imaginer qu'il est près de nous, car nous n'imaginons pas le soleil aussi proche parce que nous ignorons sa vraie distance, mais parce qu'une affection de notre corps enveloppe l'essence du soleil en tant que le corps lui-même est affecté par cet astre. Proposition 36. Les idées inadéquates et confuses suivent les unes des autres avec la même nécessité que les idées adéquates, c'est-à-dire claires et distinctes. Démonstration. Toutes les idées sont en Dieu. Proposition 15, partie 1. Et considérées dans leur rapport avec Dieu, elles sont vraies. Proposition 32. Et corollaire de la proposition 7, adéquate. Par suite, il n'existe point d'idées qui ne soient inadéquates et confuses, si ce n'est en tant qu'on les considère dans leur rapport avec l'âme singulière de quelqu'un. Voir à ce sujet propositions 24 et 28. Et par suite, toutes les idées, tant adéquates qu'inadéquates, suivent les unes des autres, corollaire de la proposition 6, avec la même nécessité, CQFD. Proposition 37. Ce qui est commun à toute chose, voir à ce sujet le lemme 2 ci-dessus, et se trouve, pareillement, dans la partie et dans le tout, ne constitue l'essence d'aucune chose singulière. Démonstration. Si on le nie, que l'on conçoive, si on le peut, que cela constitue l'essence de quelque chose singulière. Par exemple, celle de B. Cela donc ne pourra, définition 2, sans B, exister ni être conçu. Or, cela est contre l'hypothèse. Cela donc n'appartient pas à l'essence de B, ni ne constitue l'essence d'une autre chose singulière. CQFD. Proposition 38. Ce qui est commun à toute chose se trouve pareillement dans la partie et dans le tout, ne peut être conçu qu'adéquatement. Démonstration. Soit A, quelque chose qui est commun à tous les corps, et se trouve également dans la partie et dans le tout d'un corps quelconque. Je dis que A ne peut être conçu qu'adéquatement. L'idée de A, en effet, corollaire de la proposition 7, sera nécessairement adéquate en Dieu, aussi bien en tant qu'il est l'idée du corps humain qu'en tant qu'il a les idées des affections de ce corps. Et ces idées, propositions 16, 25 et 27, enveloppent en partie la nature tant du corps humain que des corps extérieurs, c'est-à-dire, propositions 12 et 13, cette idée de A sera nécessairement adéquate en Dieu en tant qu'il constitue l'âme humaine, en d'autres termes, qu'il a les idées qui sont dans l'âme humaine. L'âme donc, corollaire de la proposition 11, perçoit nécessairement A adéquatement, et cela aussi bien en tant qu'elle se perçoit elle-même qu'en tant qu'elle perçoit son propre corps ou un corps extérieur quelconque. Et A ne peut être conçu d'une autre manière. CQFD. Corollaire. Il suit de là qu'il y a certaines idées ou notions qui sont communes à tous les hommes, car l'aime d'eux, tous les corps conviennent en certaines choses qui, proposition précédente, doivent être perçues par tous adéquatement, c'est-à-dire clairement et distinctement. Proposition 39. Si le corps humain et certains corps extérieurs, par lesquels le corps humain a coutume d'être affecté, ont quelques propriétés communes, et qui soient pareillement dans la partie de l'un quelconque des corps extérieurs et dans le tout, de cette propriété aussi, l'idée sera dans l'âme adéquate. Démonstration. Soit A, la propriété commune au corps humain et à certains corps extérieurs, qui se trouvent pareillement dans le corps humain et dans ces mêmes corps extérieurs, et est enfin pareillement dans la partie de l'un quelconque des corps extérieurs et dans le tout. Une idée adéquate de A lui-même sera donnée en Dieu, corollaire de la proposition 7, aussi bien en tant qu'il a l'idée du corps humain qu'en tant qu'il a les idées des corps extérieurs supposés. Supposons maintenant que le corps humain soit affecté par un corps extérieur, par le moyen de ce qu'il a de commun avec lui, c'est-à-dire de A, l'idée de cette affection enveloppera la propriété A, proposition 16, et par suite, corollaire de la proposition 7, l'idée de cette affection sera adéquate en Dieu en tant qu'il est affecté de l'idée du corps humain, c'est-à-dire, proposition 13, en tant qu'il constitue la nature de l'âme humaine. Et ainsi, corollaire de la proposition 11, cette idée est aussi dans l'âme humaine adéquate. CQFD. Corollaire. Il suit de là que l'âme est d'autant plus apte à percevoir adéquatement plusieurs choses que son corps a plus de propriétés communes avec les autres corps. Proposition 40. Toutes les idées qui suivent dans l'âme, des idées qui sont en elles adéquates, sont aussi adéquates. Démonstration. Cela est évident quand nous disons, en effet, qu'une idée suit dans l'âme humaine d'idées qui sont en elle adéquates, nous ne disons rien d'autre, corollaire de la proposition 11, sinon que dans l'entendement divin, une idée est donnée, de laquelle Dieu est cause, non en tant qu'il est infini, ou en tant qu'il est affecté des idées d'un très grand nombre de choses singulières, mais en tant qu'il constitue l'essence de l'âme humaine seulement. Scoli 1. J'ai expliqué par ce qui précède la cause des notions appelées communes, et qui sont les principes de notre raisonnement. Mais il y a d'autres causes de certains axiomes ou de certaines notions communes qu'il importerait d'expliquer par cette méthode que nous suivons. On établirait ainsi quelles notions sont utiles par-dessus les autres et quelles ne sont presque d'aucun usage. Quelles, en outre, sont communes et quelles claires et distinctes pour ceux-là seulement qui sont libres de préjugés. Quelles, enfin, sont mal fondées. On établirait de plus d'où les notions appelées secondes et conséquemment les axiomes qui se fondent sur elles, tirent leur origine, ainsi que d'autres vérités ayant trait à ces choses que la réflexion m'a jadis fait apercevoir. Comme, toutefois, j'ai réservé ces observations pour un autre traité, et aussi pour ne pas causer d'ennui par une prolixité excessive sur ce sujet, j'ai résolu de sursoir à cette exposition. Afin néanmoins de ne rien omettre qu'il ne soit nécessaire de savoir, j'ajouterai quelques mots sur les causes d'où sont provenus les termes appelés transcendentaux, tels que être, chose, quelque chose. Ces termes naissent de ce que le corps humain étant limité est capable seulement de former distinctement en lui-même un certain nombre d'images à la fois. J'ai expliqué ce qu'est l'image dans le scoli de la proposition 17. Si ce nombre est dépassé, ces images commencent à se confondre. Et si le nombre des images distinctes que le corps est capable de former à la fois en lui-même est dépassé de beaucoup, toutes se confondront entièrement entre elles. Puisqu'il en est ainsi, il est évident par le corollaire de la proposition 17 et par la proposition 18 que l'âme humaine pourra imaginer distinctement à la fois autant de corps qu'il y a d'images pouvant être formées à la fois dans son propre corps. Mais, sitôt que les images se confondent entièrement dans le corps, l'âme aussi imaginera tous les corps confusément, sans nulle distinction, et les comprendra en quelque sorte sous un même attribut, à savoir sous l'attribut de l'être, de la chose, etc. Cela peut aussi provenir de ce que les images ne sont pas toujours également vives, et d'autres causes semblables qu'il n'est pas besoin d'expliquer ici, car, pour le but que nous nous proposons, il suffit d'en considérer une seule. Toutes, en effet, reviennent à ceci que ces termes signifient des idées au plus haut degré confuses. De causes semblables sont nées aussi ces notions que l'on nomme générales, telles « homme », cheval, chien, etc. À savoir, parce que tant d'images, disons par exemple d'hommes, sont formées à la fois dans le corps humain que sa puissance d'imaginer se trouve dépassée. Elle ne l'est pas complètement à la vérité, mais assez pour que l'âme ne puisse imaginer ni les petites différences singulières, telles la couleur, la taille de chacun, ni le nombre déterminé des êtres singuliers, et imagine distinctement cela seul en quoi tous conviennent en tant qu'ils affectent le corps. C'est de la manière correspondante en effet que le corps a été affecté le plus fortement, l'ayant été par chaque être singulier. C'est cela que l'âme exprime par le nom d'homme et qu'elle affirme d'une infinité d'êtres singuliers. Mais on doit noter que ces notions ne sont pas formées par tous de la même manière. Elles varient en chacun, corrélativement avec la chose par laquelle le corps a été plus souvent affecté et que l'âme imagine ou se rappelle le plus aisément. Ceux qui, par exemple, ont plus souvent considéré avec étonnement la stature des hommes entendront sous le nom d'homme un animal de stature droite. Pour ceux qui ont accoutumé de considérer autre chose, ils formeront des hommes une autre image commune, savoir l'homme est un animal doué du rire, un animal à deux pieds sans plumes, un animal raisonnable. Et ainsi, pour les autres objets, chacun formera, suivant la disposition de son corps, des images générales des choses. Il n'est donc pas étonnant qu'entre les philosophes qui ont voulu expliquer les choses naturelles par les seules images des choses, tant de controverses se soient élevées. Scoli 2. Pour tout ce qui a été dit ci-dessus, il apparaît clairement que nous avons nombre de perceptions et formons des notions générales tirant leur origine. Premièrement, des objets singuliers qui nous sont représentés par les sens d'une manière tronquée, confuse et sans ordre pour l'entendement. Voir corollaire de la proposition 29. Pour cette raison, j'ai accoutumé d'appeler de telles perceptions connaissances par expérience vagues. Deuxièmement, des signes, par exemple, de ce que, entendant ou lisant certains mots, nous nous rappelons des choses et en formons des idées semblables à celles par lesquelles nous imaginons les choses. Voir Scoli de la proposition 18. J'appellerai par la suite l'un et l'autre mode de considérer connaissance du premier genre, opinion ou imagination. Troisièmement, enfin, de ce que nous avons des notions communes et des idées adéquates des propriétés des choses, voir corollaire de la proposition 38, proposition 39 avec son corollaire et proposition 40, j'appellerai ce mode raison et connaissance du deuxième genre. Outre ces deux genres de connaissances, il y en a encore un troisième, comme je le montrerai dans la suite, que nous appellerons science intuitive. Et ce genre de connaissance procède de l'idée adéquate de l'essence formelle de certains attributs de Dieu à la connaissance adéquate de l'essence des choses. J'expliquerai tout cela par l'exemple d'une chose unique. On donne, par exemple, trois nombres pour en obtenir un quatrième qui soit au troisième comme le second au premier. Des marchands n'hésiteront pas à multiplier le second par le troisième et à diviser le produit par le premier parce qu'ils n'ont pas encore laissé tomber dans l'oubli ce qu'ils ont appris de leur maître sans nulle démonstration ou parce qu'ils ont expérimenté ce procédé souvent dans le cas de nombres très simples, ou par la force de la démonstration de la proposition 19, livre 7 d'Euclide, c'est-à-dire par la propriété commune des nombres proportionnels. Mais pour les nombres les plus simples, aucun de ces moyens n'est nécessaire. Étant donné, par exemple, les nombres 1, 2, 3, il n'est personne qui ne voit que le quatrième proportionnel est 6, et cela beaucoup plus clairement, parce que la relation même que nous voyons d'un regard qu'a le premier avec le second, nous concluons le quatrième. Proposition 41. La connaissance du premier genre est l'unique cause de la fausseté. Celle du deuxième et du troisième est nécessairement vraie. Démonstration. Nous avons dit, dans le précédent scoli, qu'à la connaissance du premier genre appartiennent toutes les idées qui sont inadéquates et confuses. Et par suite, proposition 35, cette connaissance est l'unique cause de la fausseté. D'autre part, nous avons dit qu'à la connaissance du deuxième genre et du troisième genre appartiennent les idées qui sont adéquates. En conséquence, cette connaissance, proposition 34, est nécessairement vraie. CQFD.